Make the sound every night, every we wear. In a DC, you put your hands in the air. Yeah. Me want to see you put your hands in the air. Make the sound every time, everywhere. Me want to see you put your hands in the air. In the air, in the air. Me want to see you put your hands in the air. Make the sound every night, everywhere. In a DC, you put your hands in the air. Yeah. MC pick up on the microphone from Reunion Island. I give them a brand new song. This a Reunion daggering thing, you know. A Reunion we love dagger dagger, you know. We not call it pasta pasta, but dagger dagger.
Il est 5h en temps universel, 7h ici à Paris.
Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le début de ces 3 heures d'actualité internationale avec nos reportages, hein, comme tous les jours, nos correspondants, nos chroniques et nos invités. Et d'abord le journal. Bonjour Julien Coquel-Royal.
Bonjour Clotilde. À la une de l'actualité, un pays menacé d'asphyxie et ses partenaires commerciaux menacés d'isolement. Les nouvelles sanctions annoncées hier par les États-Unis pour couper du monde l'économie iranienne. Peu de détails pour le moment sur la mise en œuvre de ces mesures. Vous l'entendrez dans un instant. Nous n'avons aucune confiance en leur système judiciaire ni en leur impartialité. À Gaza, le scepticisme des proches de Indra Jab, fillette de 5 ans tuée par des frappes israéliennes en janvier 2024. Ils affichent donc leurs doutes après l'annonce d'une enquête par l'armée. Dans ce journal également, la Russie en proie aux frappes ukrainiennes sur ces deux géants du commerce en ligne. En Tunisie, la colère grandissante après la mort de 12 jeunes qui tentaient de quitter le pays par la mer et puis interdire le téléphone portable avant la rentrée dans une semaine. Le défi aux airs de Mission Impossible lancé hier par Emmanuel Macron au lycée français.
Couper toutes les ressources économiques du régime iranien et le conduire à l'asphyxie.
La promesse hier de Scott Bessent aux États-Unis, le secrétaire américain au Trésor qui présentait à Washington deux nouvelles sanctions économiques à l'encontre de l'Iran et qui visent cette fois les partenaires économiques de Téhéran sur l'or, la technologie, les actifs numériques, l'aviation, le transport maritime. Les États-Unis veulent désormais couper le pays du monde et menacent aussi d'isolement les États et les entités qui seraient tentées de contourner ces sanctions. Une fois encore, la Maison-Blanche hausse le ton, mais le flou demeure sur la mise en œuvre de ces mesures, Vincent Sourio.
Dans le viseur de l'administration Trump, une soixantaine de cibles, entreprises, gouvernements et entités qui n'ont pas été nommées, mais que les États-Unis accusent de maintenir en vie le régime iranien.
Les soutiens de l'Iran achètent et transportent son pétrole. Ils facilitent le flux de ses finances à travers des bureaux de change et des zones de libre-échange. Ils accueillent des avions iraniens et tiennent des registres pour le compte de l'Iran. Ils tolèrent l'usage illicite de leurs banques tout en dissimulant l'étendue de leur complicité.
À tout cela, Scott Bessent promet de montrer toute l'étendue de la puissance américaine. Mais paradoxalement, les États-Unis, qui promettaient des annonces choc, ont choisi de ne pas prendre de sanctions immédiates.
Nous leur donnons l'occasion de remédier à leur comportement. Pourquoi voudrais-je faire exploser le système financier mondial? Mais il faut qu'ils sachent que ça peut aller très vite et que nous sommes très sérieux. Les sanctions indirectes sont un outil très puissant et si ces gens ne se rangent pas, ils doivent s'attendre à devoir quitter le système financier du dollar.
De combien de temps disposent ces entités pour se mettre en conformité avec les exigences américaines? Scott Bessent ne l'a pas précisé. Vincent Chouriou, Washington RFI.
Pas de calendrier fixe, mais la patience des États-Unis n'est pas infinie, dit le secrétaire au Trésor. La Chine est évidemment dans le viseur de Washington. Avec ces mesures, elle qui continue d'acheter du pétrole iranien en grande quantité. Pékin qui, avant l'annonce des sanctions, estimait déjà que la pression américaine ne permettrait pas de résoudre le conflit. L'Iran évoque de son côté un aveu de faiblesse de la part des États-Unis. Il promet une nouvelle défaite américaine et assure disposer d'un plan sur 2 ans pour contrer les sanctions. Du côté du détroit d'Ormuz, l'agence maritime britannique a signalé cette nuit qu'un pétrolier avait été touché par un projectile inconnu alors qu'il circulait au large d'Oman.
Benjamin Netanyahou, de son côté, accuse l'Iran d'avoir tenté de tuer l'un de ses fils.
Il l'a affirmé hier lors d'un entretien téléphonique avec la chaîne israélienne Channel 14, sans donner plus de précisions. Israël qui continue de bombarder Gaza, malgré le cessez-le-feu conclu en octobre dernier, au moins 5 morts, dont 2 enfants de 4 et 10 ans hier, dont plusieurs frappes menées sur l'enclave palestinienne.
Elle avait été tuée avec plusieurs membres de sa famille alors qu'il tentait de fuir Gaza et sa mort avait choqué le monde.
C'était en janvier 2024, la petite Inra Rajab, fillette palestinienne de 5 ans, tuée par une frappe israélienne alors qu'elle appelait au secours depuis la voiture de sa famille, déjà criblée de balles. Une ambulance du Croissant Rouge avait été envoyée pour la secourir avant d'être elle-même prise pour cible. Et le corps de In Rajab avait été retrouvé plusieurs jours plus tard avec ceux de son oncle, de sa tante, de ses cousins et de deux secouristes. Il a fallu attendre la semaine dernière pour que l'armée israélienne reconnaisse pour la première fois avoir tiré sur le véhicule. Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais à Gaza, les proches de In Rajab, rencontrés par notre correspondant, expriment leur scepticisme. Reportage dans l'enclave de Rami Al-Megari avec Abla Junaidi à Paris.
Plus de 2 ans et demi après sa mort, la grand-mère fait défiler sur son téléphone les nombreuses photos de la fillette. Un sourire figé à jamais qui ravive la douleur chez Omar Rami.
In était une enfant innocente. Nous aurions voulu qu'elle vive son enfance dans la dignité et la liberté.
Sans cesse, ses proches repensent à la souffrance qu'ont dû endurer la petite fille et sa famille, tuée par l'armée israélienne avec deux secouristes palestiniens qui tentaient de les sauver. La semaine dernière, l'armée israélienne a reconnu son implication et annoncé une enquête sur ce qu'elle qualifie d'incident, mais la grand-mère n'y croit pas.
Juste après leur mort, l'armée avait nié l'implication de ces soldats. Nous n'avons aucune confiance en leur système judiciaire, ni en leur impartialité, car ils ont commis des crimes délibérés, non seulement à l'encontre de Hind, mais de tous les enfants de Gaza. 21 000 ont été tués. Chaque jour, l'État d'Israël assassine des enfants, bombarde les écoles et les hôpitaux. Le monde parle du cas d'Hind parce qu'il a été documenté, alors que les crimes de l'occupant se produisent tous les jours, 24 heures sur 24.
La famille réclame une enquête indépendante. De nombreux rapports ont permis de pointer la responsabilité de l'armée israélienne. C'est le cas notamment des conclusions de la fondation Hind Rajab, qui a déposé plainte pour crimes de guerre auprès de la Cour pénale internationale.
Rami Al-Megari et Abla Junaidi.
En Russie, un décret signé par Vladimir Poutine face aux frappes ukrainiennes.
Le texte publié hier autorise l'État russe à prendre temporairement le contrôle d'installations critiques qu'il jugerait insuffisamment protégées contre les attaques de drones. Kiev a multiplié ces derniers mois ses frappes contre les raffineries de pétrole, les ports, les entrepôts logistiques commerciaux en Russie. Le géant du commerce en ligne Wildberries a perdu au moins 17% de sa capacité de stockage. Et c'est désormais au numéro 2 du secteur que l'Ukraine s'en prend depuis plusieurs jours. Le géant Ozone, dont déjà 6 entrepôts ont été visés. Un incendie faisait encore rage hier matin dans l'un d'entre eux. L'objectif derrière ces frappes est multiple, Pierre-Olivier.
Ozone et Wildberries, c'est plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ozone, par exemple, héberge sur son site plus de 750 000 entrepreneurs et possède un réseau de 85 000 points de retrait à travers la Russie. En s'attaquant à ce géant du commerce, Kiev veut d'abord porter un coup à l'économie russe. Après l'annonce de ces attaques, l'action Ozone a dégringolé à la bourse de Moscou. Bruxelles considère par ailleurs Ozone comme l'un des groupes ayant le plus d'impact sur la capacité russe à financer sa guerre. C'est d'ailleurs l'autre objectif de l'Ukraine, ralentir la logistique militaire russe. Selon Kiev, la Russie utiliserait ses plateformes de commerce en ligne pour contourner les sanctions internationales et s'approvisionner en équipements de navigation et matériel militaire qui serviraient à la production de drones. Enfin, s'en prendre à Ozone sert aussi la guerre psychologique menée par l'Ukraine. En désorganisant les commandes en ligne, Kiev veut que le conflit touche chaque foyer et qu'aucun Russe ne puisse ignorer la guerre.
Pierre-Olivier, et côté ukrainien, c'est Volodymyr Zelensky qui a tenté hier de glaner de nouvelles promesse de la part de ses alliés. Nous avons besoin de plus d'argent, dit le président ukrainien. En visite à Kiev pour la journée de l'indépendance, le premier ministre britannique Andy Burnham a lui confirmé avoir autorisé l'entreprise de défense MBDA à partager des informations classifiées pour permettre la production en Ukraine de missiles Scalp de longue portée. Il dénonce les scandaleuses menaces de la Russie, qui a affirmé la semaine dernière que le Royaume-Uni aurait à répondre de son soutien militaire à l'Ukraine. La Russie tentera une escalade contre les pays européens afin de les dissuader d'aider l'Ukraine. C'est ce qu'a commenté de son côté le président français Emmanuel Macron lors de la réunion de la coalition des volontaires.
À la une également, Julien, la Tunisie et la colère après la mort de 12 jeunes Tunisiens ce week-end.
L'embarcation sur laquelle ils tentaient de traverser la Méditerranée a sombré vendredi. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver leur corps et la tension monte depuis dans le sud du pays. Le week-end a été marqué par des heurts dans la ville dont ils étaient originaires, Ben Gherdan, dans le sud du pays. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes imputent ce drame à la crise économique et sociale qui sévit en Tunisie. Lilia Blaise.
Le drame de Ben Gherdan en dit long sur l'état de cette région frontalière, célébrée en 2016 pour avoir résisté à une attaque djihadiste, mais très marginalisée sur le plan socio-économique, selon Ramdan Ben Amor, militant de la société civile et expert sur la question migratoire.
Donc il n'y a pas un marché d'offres d'emploi. Donc c'est qu'à pousser ces gens-là à se le baser pour gagner leur vie dans le commerce frontalier, le contrebande à Ben Gherdan. L'État et les autorités libyennes ont fait des restrictions contre cette forme de commerce sans que l'État tunisien a recouru à des alternatives, ce qui a créé cette tension de quitter Ben Gherdan et de quitter la Tunisie.
L'actualité du naufrage résonne aussi auprès de la diaspora tunisienne de l'autre côté de la Méditerranée, la destination que visaient ces jeunes disparus en mer. Ella Ben Youssef est vice-présidente du parti politique tunisien État Catholique et s'exprime depuis la France.
Il y a parfois des coïncidences qui sont d'une violence terrible. Presque le même jour, nous pleurons nos jeunes de Ben Gherdan et nous célébrons en même temps nos jeunes médaillés aux Jeux méditerranéens. Et c'est cette image qui me bouleverse. La même Méditerranée qui honore certains de nos jeunes devient le tombeau d'autres. Pourtant, ce ne sont pas deux jeunesses différentes. Ce sont les enfants du même pays, avec les mêmes rêves et le même droit à un avenir.
Hier, la coordinatrice résidente des Nations Unies en Tunisie, Rana Taha, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Pas de réaction officielle pour le moment du côté des autorités tunisiennes. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et la colère qui s'est aussi exprimée il y a quelques semaines dans la rue en Inde cette
le
fois.
Le mouvement étudiant du parti des cafards avait fini par obtenir en juillet la démission du ministre de l'Éducation après des scandales de corruption dans les concours universitaires. Mais derrière cette victoire inédite dans l'Inde de Narendra Modi, la violence policière est passée par là. Amnesty International publiait hier une enquête sur le sujet pour pointer des méthodes de plus en plus brutales. Emmanuel Derville.
Le rapport d'Amnesty témoigne d'une tendance que l'on observe depuis 6 ans à New Delhi. L'usage disproportionné de grenades assourdissantes, le passage à tabac de manifestants pacifiques et surtout le recours à des tirs de chevrotine. Ces pratiques, en particulier les fusils à grenailles, étaient plutôt cantonnées au Cachemire, une région travaillée par des revendications séparatistes. Désormais, ces méthodes sont utilisées dans la capitale, révélateur d'une brutalisation des forces de sécurité qui va de pair avec l'autoritarisme croissant du gouvernement. Lors des manifestations de juillet, le Premier ministre Modi avait été ridiculisé et insulté sur les réseaux sociaux, inacceptable pour le régime en place qui entretient un culte de la paix.
Simple yearning war. There's something. of my eye to the back of my mind. I recognize what you mean to me.
Pretty lady, but buddy, don't try to fool around. She has smells like the best of perfumes, but she has danger on her mind. Moves her hips like a panther, and she's wild, wow, she's so wild. She's a queen in big old Texas, look at her, she can't stop. Hey boys, pay attention, cause Flossie just won't.
Radioactifs et ils sont analogues aux rayons X.
Excellente réponse, Kelly. Quant à ceux qui ont répondu qu'il fallait beaucoup écouter la radio pour devenir radioactif, ils sont à côté de la plaque.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Yeah, 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 oh, yeah, oh, bah. Un ego no para de tiempo.
Brasil, Rio, no Medim, cabeça de negro. Desfecho conforme vive o vento, se mostra respeito pro povo um ofenso, me verso. Protetor do ouro, que olhou, colheu o ouro, 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 ouro. Chegado cheio, presto um cigarro, se pá. Não falo besteira, Brasil, tô na palma, bandeira e não para. De Curitiba, Candelária, um bom tempo na praia. Porque a nega não para, não para, não para, um bom tempo. A nega não para, a fica desde o momento. Tipo Anastácia, Tereza, relembra, mãe, menininha. O canto A pode crer que sempre vai ter vida. Maracanã, lotado ou desastrado, por isso eu já é sábado. Tudo que eu faço é torcer, mas vai ver a trajetória do timão vencer. Periferia sofre vida, mas tira um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da terra vai saber viver. Ei, medo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sente lá dentro. Maracutaia lá no monte, mano, vai viver. Maracutaia segue a seco, um dia vai chover. Carol, eu vejo sim, quero dizer que vim do boqueirão fingir que reivindiquei que estou aqui. Um novo tempo vai poder dizer que é sobre um passado de um tempo presente. Moleque de beck, descalço, vou chapando coco, correndo no morro, aeroporto, vivo, vivo, água espraiada assim. É, o tempo todo Deus está por mim. Porque eu faço o que faço, não mando recado. 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 Medo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sente lá dentro. Maracutaia lá no monte, mano, vai viver. Maracutaia segue a seco, um dia vai chover. Sabe por quê? Ei, ei, ei. Um bebezinho, tiririonã, eu vi. Um bebezinho, tiririonã.
Moi je t'ai dit que le métissage était notre futur. futur, tout en préservant la richesse de toute culture. Quand je t'ai dit qu'on mentait plus et que l'Africain était mon frère, le musulman et les juifs, je respectais leurs prières. Rappelle-toi de ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit avant de raconter tes conneries dans tes interviews pourries. Moi j'ai écrit, j'écris et j'écrirai encore qu'il faut sauver la planète, même si tout le monde pense que j'ai tort. Je t'ai parlé du G8, du FMI, de l'impérialisme américain, maintenant ses relations avec le pouvoir israélien. Je t'ai parlé de l'école, des médias et du racisme, et que souvent ces trois sont liés, c'est ça le paroxysme. J'ai écrit sur ma commo, dès qu'on l'a tué, demande à que je n'ai qui dans 18 à bouger. J'ai averti mon public sur les dangers de l'idolâtrie, qu'il fallait croire en soi-même pour partager avec autrui. J'ai ouvert chemin aux petits et défoncé des portes fermées, mais je n'ai jamais amené la guerre, après mon passage je fus la paix. J'ai écrit sur mes sœurs, que j'aime de tout mon cœur, même si j'ai perdu l'âme sœur et que mon cœur est malade.
Qui a dit qu'il fallait voter Chirac? C'est pas moi. Qui a dit qu'il fallait anéantir l'Irak? C'est pas moi. Qui a dit qu'il fallait interdire les squats? C'est pas moi. Qui interdit l'entrée aux robots aux blagues? C'est pas moi.
Donc personne n'arrête la formule, j'accumule, prends des coups et bascule. Mes rimes qui s'articulent, qui jamais ne capitulent. Dans tous les sens, ont un sens, gavent leur sens, montent le sens, dans au-dessus de la France, comme ta mère au-dessus de l'essence. Ma connaissance a pas d'avance, sur ce qui pense tout connaître. Je ne suis pas un maître, un apprenti qui s'intéresse au son des lettres, au son des êtres, à ce qui se passe plus loin que sa fenêtre, plus loin que nos histoires de ch'tec, de planquettes, de routine, de l'intellect. Moi dès que j'ai pris le mic, j'ai mixé les 5 éléments du hip-hop. J'ai livré à la France le vrai message hip-hop à l'époque. Quand tout le monde était guélard, j'ai été le phare. Tu peux cracher tes mots là et on n'a pas deux comme Wambada. Je t'ai montré qu'il fallait respecter les gens et leur musique, leur culture, leur histoire, leur drame et leur touche magique. Je t'ai dit tellement de choses qu'un texte ne suffit pas pour rappeler ce que j'ai dit que t'as oublié quand tu parles de moi. Qui a dit qu'il fallait croire tout ce qu'on dit? C'est pas moi. Qui a dit qu'il fallait pas que tu vérifies? C'est pas moi. Qui a dit? Moi je m'en bats les couilles de la vie. C'est pas moi. Moi j'arrête, je baisse les bras. Qui l'a dit? C'est pas moi.